Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio.
Sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste.
Midi 13h.
17h, 18h. Agenda.
Nouveautés discographiques.
Interviews et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Souffle du nez en même temps.
De glace entre chaque mot. Moi, je vais te mettre au rushing.
Nous parlons tous de la logosphère. Vous êtes ici, si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure.
Avec lui.
Avec moi.
Sur même ton.
Les citoyens de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio.
Autrement.
Encore plus intense, encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Et bienvenue à tous et à toutes en ce mardi 9 mars. On commence tous au poste et bien fort en public et en personne, puisque on parlera aujourd'hui des sans-papiers. Et pour ce faire, et bien il y a des personnes de la CIMAD, il y a des personnes de la coordination de comité de soutien aux sans-papiers. Il y a également Sonia Loaouès et Madame Saïdi Siam. Et puis il y a également le réseau Éducation sans frontières. Et puis également le Génépi qui vient de nous rejoindre. Bonjour à tous. Tout de suite, un petit peu plus avant, et bien on va parler des bons plans du jour, quoi faire, où aller, où pointer le bout de son nez alors que le soleil est revenu sur Montpellier. Et pour ça, je passe la parole à notre très cher stagiaire du jour, c'est Thomas, bien sûr. Bon.
Alors ça va être un peu freestyle aujourd'hui, le jazz n'est pas mort, c'est juste qu'il a une drôle d'odeur. Balancé Frank Zampa en 1974, le temps lui a donné tort. En fait, le jazz est vivant et ils sont bons. Dans notre région, il ne manque pas d'espace pour s'exprimer, alors voici un bon plan. Dave Liebman, le saxophoniste américain, et son Quartet Quest, avec Richie Beirar et son piano, Ron McClure avec sa basse acoustique et Billy Hart avec sa batterie. Ces quatre perles d'or du jazz, c'est à 21h au Jam, 100 rue Ferdinand de Lesseps. Au téléphone, vous pouvez réserver au 04 67 58 30 30. 04 67 58 30 30. L'entrée est de 22€ et si vous êtes un étudiant, c'est de 10€. Je vous propose aussi un duel de rock entre groupes de la région. C'est à 21h30 au Rockstore, 20 rue de Verdun. L'entrée est libre. Alors si vous aimez l'écologie et l'environnement et si vous aimez la musique, vous pouvez mêler les deux. C'est les Troubles Amour, groupe de Tarantella, Guide Gitano, Guinguette, Pic qui court, n'amasse pas lourd, compte pour deux voix et un violoncelle, repas bio local. C'est dans le cadre de la semaine de l'environnement à 19h30 à Musique Sans Frontières, 164 Square Jupiter, rue Saragosse. L'entrée est libre. Théâtre, l'humour noir, Occident, pièce de Rémi Devos, mise en scène par Dag Janaret avec Stéphanie Marc et Philippe Autier. Alors si votre couple est en crise, et bah, l'espoir est enfoui dans cette pièce, vous saurez le trouver. Je vous conseille d'aller le voir, c'est un homme qui glisse vers l'extrémisme et sa femme essaie tout pour le sauver. C'est à 19h au Théâtre des 13 ans à Grammont. L'entrée est de 21€ et si vous êtes étudiant, c'est de 14€. Reçoit demain au Tous au poste. Si vous aimez la Russie, il y a une semaine culturelle russe qui vous propose une pièce de Tchekhov par les élèves de l'université du Tiers-Temps. Chant du répertoire imprononçable Dukhujava. C'est des poèmes lus par Olga Klein en français et en russe. C'est à 14h à la Maison des Relations Internationales à l'Esplanade. L'entrée est libre. Alors, si vous voulez une conférence sur la Russie, c'est sur le thème « À propos de l'âme slave » par Alma Sergeva, auteure du livre « Qui sont les Russes ?». C'est pas facile de faire cette émission. Et classe de maître sur la traduction en littérature par Monsieur Sergeev, dégustation de plats russes dans le cadre de la semaine culturelle russe. C'est à 16h à la Maison des Relations Internationales, Esplanade. L'entrée est aussi libre. Alors hier c'était la journée de la femme, café du genre avec Nicole Nouriga qui coordonne en France la marche mondiale des femmes. Soyez pas misogynes, allez les hommes, allez-y. C'est à 18h30 au Martins Club, rue de la Monnaie, au téléphone 06 87 01 46 54. Le téléphone 06 87 01 46 54. Bon bah voilà, j'espère que vous avez su me comprendre. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci Thomas pour ces bons plans. En effet, c'est pas facile, on est beaucoup dans le studio et il y en a beaucoup qui rigolent aussi, donc c'est pas très très facile. Tout de suite, on passe à la nouveauté de la semaine en ce moment. Eh bien, à Divergence, on écoute W de Pineapple Dream. Tout de suite, c'est I Made Up My Mind. My Mind, on écoutait W, c'était l'album Pineapple Dream.
Tous au poste, interview.
Tous au poste sur Divergence FM, le 93.9. Florent Robin au micro et je suis avec la belle et la troublante Julia pour ce Tous au poste.
Bonjour.
Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans le studio aujourd'hui. Je vais laisser à Julia le soin de présenter tout le monde. C'est un rendez-vous qui va devenir régulier sur Divergence FM, un rendez-vous citoyen dans le Tous au poste. Nous recevons aujourd'hui plein d'associations qui vont nous parler des problèmes des sans-papiers à des points de vue différents, n'est-ce pas, Julia ?
Tout à fait, Florent. Alors aujourd'hui, on accueille dans le désordre Sonia Laouès et Madame Saïdi Siem, Chantal Germain pour la CIMAD et le réseau Éducation Sans Frontières, José Lagorce également pour la CIMAD, Frédéric Burguin-Casi pour la coordination des comités de soutien aux sans-papiers et Neumann Mekari pour le GNEPI. Voilà, bonjour à tous. Alors là, normalement, on vous entend. Alors je vais demander à chacun de présenter son action concrète en quelques mots et puis sa situation pour la famille Saïdi. Allez, je vous en prie, c'est Chantal Germain qui commence.
Bonjour, bonjour à tous. Je représente ici la CIMAD et le réseau Éducation sans frontières. et la CIMAD, comme le réseau Éducation sans frontières, font l'accueil de familles, de personnes qui sont en situation irrégulière et qui recherchent la possibilité d'obtenir des titres de séjour. Alors, le réseau Éducation sans frontières a été créé plutôt pour suivre les jeunes devenus majeurs, donc devenus irréguliers du fait même de leur majorité, et pour éviter leur expulsion. Donc c'est un combat incessant depuis la fin de l'année 2004. Et la CIMAD apporte un appui juridique très important. Elle est présente dans les centres de rétention, on en parlera tout à l'heure. Donc les deux travaillent en assez bonne entente, puisque je crois que l'énergie de chacun d'entre nous est nécessaire pour lutter contre cette politique du chiffre, cette politique des quotas, cette politique du contrôle au faciès, des mises en garde à vue, des mises en rétention et cette politique des expulsions. Je rappelle simplement un chiffre, 29 000 expulsions en 2009. Le ministre s'en est félicité et espère faire mieux en 2010.
Merci Chantal Germain, vous êtes accompagnée avec José Lagorce pour RESF également. Bonjour à vous.
Bonjour, José Lagorce, en fait je suis de la CIMAD, j'interviens au centre de rétention administrative de Nîmes.
Bonjour à vous. Ensuite, juste à côté, on croise Neumann Mekari pour le Génépi. Bonjour à toi.
Bonjour. Donc je fais partie du Génépi. Donc c'est une association qui intervient surtout pour les personnes incarcérées. Mais je suis ici, j'étais invité pour parler des étrangers, car on a beaucoup quand même travaillé avec les étrangers, car détention, rétention, c'est à peu près le même combat. Donc c'est un enfermement comme les autres, et donc du coup, faut combattre tous ces enfermements et les rendre transparents.
En face de vous, bien, il y a la famille Saïdi et Sonia Laouez. Bonjour à vous deux.
Bonjour, je me présente, Saïdi, CIEM, sans papier, arrivée en France en mai 2008 avec mon mari et ma petite-fille Maïssa, scolarisée à Louis Figuier, elle a 5 ans, et un fils, Saïdi Youssef, qui est né en France en 2008. Voilà, et Sonia.
Bonjour à tous, donc Sonia Laouez, je suis une des personnes qui ont monté le comité de soutien pour la famille Saïdi. Principalement, nous sommes de l'école Louis Figuier, bien sûr, parce que nos enfants sont les petits camarades de Maïssa. Et voilà, nous soutenons son action, sa démarche de régularisation, d'obtention de papier pour une vie décente.
À côté de vous, Frédéric Burguin-Gazi.
Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je représente la coordination des comités de soutien aux sans-papiers. Donc, avec beaucoup, beaucoup de sans-papiers, femmes et hommes qui habitent et qui vivent en France aujourd'hui et qui sont privés de papiers, donc en situation entre guillemets illégale ou irrégulière. On n'aime pas beaucoup ce terme, puisque ça dépend du point de vue duquel on le traite. Mais donc nous, on les soutient, on intervient avec eux, on les soutient dans le montage de leurs dossiers, puisqu'il faut qu'ils déposent des dossiers à la préfecture pour obtenir des papiers. Et puis, on le soutient au quotidien pour que, justement, ils puissent être plus forts, qu'on puisse être plus forts tous ensemble et qu'on puisse faire face aux lois qui amènent à l'emprisonnement, qui amènent à la rétention des personnes et puis à l'expulsion.
Alors on va commencer ce gros plateau sans papier par justement le parcours du combattant, qu'on pourrait dire d'un sans papier lorsqu'il arrive sur le sol français. Quels sont ses droits lorsque le sans papier pénètre sur le territoire français ?
Alors moi ce que j'aimerais dire c'est que actuellement les lois sont une fabrique de sans papier. Que beaucoup de gens arrivent en France, ils ne sont pas des sans-papiers. Ils ne sont pas des personnes en situation irrégulière. Ils ont un visa de court séjour ou ce sont des enfants qui accompagnent leurs parents mais qui vont devenir majeurs et qui, à partir de ce moment-là, n'auront plus de titre de séjour. Et tous ces gens ont des papiers. Ils ont des passeports. Ils ont une multitude de papiers que nous voyons quand ils font leur dossier. Donc, c'est les lois qui ont été mises en place progressivement depuis quelques décennies, mais tout particulièrement depuis 2002, qui ont créé en France cette fabrique du sans-papier, dont on ne connaît pas le nombre, puisque c'est par définition même difficile de mesurer ces personnes. Dire clandestin, non, il ne faut pas le dire. Les enfants sont dans les écoles, les jeunes sont dans les écoles ou à l'université, et les parents, les pères, par exemple, sont sur les chantiers, là où ils travaillent et où ils paient leurs charges sociales le plus souvent. Donc, je récuse le mot de clandestin. Bon, je dois utiliser le mot de situation irrégulière, puisqu'administrativement, c'est le terme exact. Et notre travail, c'est justement de tout faire pour que ces personnes obtiennent ce fameux titre de séjour qui détermine finalement la qualité de leur vie. Parce que quand on est sans papier et qu'on est à l'école, on n'ose pas le dire, on n'ose pas en parler. Quand on est sans papier et qu'on est une jeune femme battue et qu'on va au commissariat, eh bien, la gendarme, ou le commissariat ou la gendarmerie n'a rien de plus pressé que de dire à la personne « on va vous expulser ». C'est ce qui s'est produit dans le Loiret tout à fait récemment. Quand on est sans papier, on ne peut pas passer certains examens. On ne peut pas s'inscrire pour faire du foot. Quand on est sans papier, on a honte auprès de ses camarades de classe, on n'ose pas en parler. Quand on est sans papier et qu'on veut se marier, on est accusé de faire un mariage, un faux mariage, de faire ce que M. Besson appelle un mariage brun, au gris plutôt. Enfin, le brun, le gris, ça me rappelle un certain nombre de souvenirs et c'est pour ça sans doute que j'ai commis ce lapsus. Voilà, donc quand on est un sans-papier, la vie est très difficile et on est enfermé. Même si on n'est pas dans un centre de rétention ou dans une prison, on est enfermé dans une situation absolument abominable contre laquelle nous luttons les uns et les autres de manière à ce que ces situations, à terme, le plus court possible, disparaissent.
Siem, comment tu le vis, toi, de travailler ici en France, d'avoir rien en retour et de vivre avec la peur au ventre chaque jour?
Vivre avec la peur, ça c'est sûr. Même j'ai transmis ma peur à mes enfants. Par exemple, parlant de mon cas, par exemple, Maïssa, quand je l'accompagne à l'école et dans le chemin, on rencontre des policiers, Maïssa, elle panique et elle me dit « Maman, attention, si ils nous embarquent ». J'ai dit déjà et je le redis, on passe pas par la gare des fois parce qu'il y a beaucoup de contrôles et on prend pas généralement le bus numéro 15 parce qu'il nous dit qu'il y a beaucoup de contrôles, donc on essaye de vivre comme des souris cachées et on ne peut pas se manifester et voilà.
Vers qui on peut se tourner quand on est sans papier, justement, pour vivre jour le jour et avoir des conditions de vie plus décentes et essayer de faire avancer les choses?
Quand on est sans papier, on se retourne auprès des associations qui aident à monter les dossiers, qui donnent des conseils, les meilleurs conseils possibles. Je voudrais quand même dire qu'il y a deux choses qui sont possibles pour les sans-papiers. La première, c'est de scolariser leurs enfants. On ne peut pas refuser la scolarisation d'un enfant entre 6 et 16 ans. Tout enfant sur le sol français a droit à la scolarisation. Ça se complique un peu au-delà de 18 ans. Et la deuxième chose, c'est qu'on a le droit à l'aide médicale d'État, c'est-à-dire qu'on peut se soigner. Voilà, deux choses qui n'ont pas encore été supprimées. Après une certaine durée de séjour, on a le droit à l'aide médicale d'État, donc on peut se soigner, faire soigner ses enfants. Donc ça me paraît vraiment capital. Tous les sans-papiers ne le savent pas. Les employés des services sociaux ne le savent pas toujours et ne le disent pas toujours. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on insiste beaucoup là-dessus. Et à part ça, on a également, alors il y a le travail légal que l'on fait, préparation des dossiers, etc., et que les associations font. Et puis il y a la pression et le rapport de force que l'on essaie d'établir auprès de la préfecture. Puisque dans tous les cas, pour des motifs humanitaires, le préfet a la possibilité de donner un titre de séjour à quelqu'un de sa propre autorité. Et donc malheureusement, les préfets ne veulent pas, ils sont contraints à des quotas, eux aussi, bien entendu, et ils ne veulent pas, s'ils n'y sont pas vivement incités par le travail des associations et par la pression des citoyens, des élus et des personnalités.
Où en sont les mouvements de grève actuellement, pour le cas des travailleurs sans papier que vous avez évoqué, les nouvelles mesures qui viennent de tomber, je crois qu'il y a une nouvelle mesure au niveau justement d'un rassemblement des mouvements patronaux qui se joignent à la CGT, à la CFDT et puis à plusieurs autres syndicats pour régulariser les salariés sans papier selon des critères objectifs. Où ça en est, ça, maintenant?
Alors, depuis quelques années, le gouvernement préconise l'immigration choisie, c'est-à-dire l'immigration de travail dans les métiers qu'il a choisis et qu'il a définis. Mais il y a en France un grand nombre de travailleurs qui n'avaient pas de titre de séjour ou dont les titres de séjour ont été périmés, perdus, etc. Et depuis la mi-novembre, il y a une grève des travailleurs. Plus de 6 000 travailleurs dans la région parisienne et un certain nombre ailleurs, mais en nombre moindre, parce qu'il faut être nombreux pour se sentir fort et pour oser, un certain nombre de travailleurs donc ont fait grève pour obtenir des titres de séjour. Par exemple, des cinéastes ont tourné un clip très intéressant sur où l'on voit un travailleur qui montre son bulletin de salaire quand il travaillait à l'hôtel Matignon. D'autres ont travaillé dans les travaux de réfection de l'Assemblée nationale. Et depuis, enfin, cette grève commence à porter ses fruits. Depuis hier, il y a eu un accord intersyndical, si je peux dire, entre les syndicats patronaux et les syndicats des travailleurs, c'est-à-dire la CGT. Alors, je n'ai pas eu le temps de le lire en détail, parce qu'hier, c'était la journée de la femme et j'étais occupée du côté des violences des femmes. Mais je pense que c'est une avancée vraiment importante. Si les patrons veulent garder leurs ouvriers et payer pour les garder, parce qu'il faut le dire aussi, eh bien, je pense qu'on aura beaucoup plus de facilité pour faire régulariser les travailleurs.
Je rappelle que certains donc, travailleurs sans papier travaillent au plus haut niveau de l'État, en emploi des sans-papiers. Ils n'ont aucun droit, ils sont corvéables à merci. Donc. Et cette nouvelle mesure donc, rassemble les mouvements patronaux éthiques CGPME, donc c'est la Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises, pardon, qui se joignent à la CGT, à la CFDT, à Solidaire et à l'UNSA, voilà, pour demander cette régularisation. Je rappelle aussi que du côté du MEDEF, le silence est de mise actuellement. On va revenir aux conditions d'incarcération dans les centres de rétention, hein, puisqu'on a beaucoup de personnes ici qui œuvrent à ces conditions-là. La présence de centres de rétention en Languedoc-Roussillon, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Comment ça se passe ?
Il y a un centre de rétention à Nîmes, un autre à Sète et un centre à Perpignan, qui sont trois centres pour Perpignan et Sète de petite taille. Je crois que c'est 28 retenues à Sète et une quarantaine à Perpignan. Nîmes est un centre un peu plus particulier qui est très récent, qui a été construit pour accueillir des familles avec enfants en très bas âge, puisqu'il est entre guillemets équipé d'une nurserie. Il peut accueillir 128 personnes, femmes seules, hommes seuls et familles. C'est un centre qui est construit sur un modèle carcéral, contrairement à des centres de rétention de type plus ancien comme celui de Sète, où les étrangers ont une circulation relativement plus libre que celle de Nîmes, où ils sont enfermés dans leur chambre et ont pour tout espace une petite cour grillagée dans laquelle se promener jusqu'à 10h du soir.
J'allais vous poser une question, mais je pense que du coup, elle devient complètement désuète. Sachant que Montpellier est à gauche, est-ce que ça crée un changement par rapport à la politique de rétention locale ? Je ne crois pas, finalement.
Déjà, au niveau national, je n'ai pas constaté, moi, de différence entre la rétention sous un gouvernement de gauche et la rétention sous celui de droite. La seule différence qu'on peut éventuellement constater sont les conditions dans lesquelles on y est amené.
Combien d'associations sont autorisées à œuvrer dans les camps de rétention ?
Alors il y a la CIMAD qui, depuis l'origine des centres de rétention, y intervient. Et depuis quelques mois, Forum Réfugiés, France Terre d'Asile, l'Ordre de Malte et un dernier dont j'ai oublié le nom.
Est-ce que cette forte présence de différentes associations, finalement, est-ce que c'est moins facile de savoir à qui s'adresser, d'avoir un référent, de bénéficier d'un suivi stable quand il y a beaucoup, beaucoup d'associations qui ont le droit de rentrer dans ces centres de rétention, alors qu'avant, il n'y avait que la CIMAD, je crois.
Alors, le problème principal que pose la présence de plusieurs associations, c'est avant tout qu'on a accepté de répondre à un appel d'offres. L'enfermement peut-il être considéré comme un appel d'offres public, comme les autres, ou était-ce plutôt une coordination associative qui aurait dû se mettre en place et on aurait dû peut-être lutter contre cette idée d'appel d'offres en lui-même. Après, on va considérer qu'effectivement l'émiettement des missions fait que le contact entre les associations peut être rendu plus difficile, le suivi des personnes retenues déplacées d'un centre de rétention vers un autre plus compliqué, mais ça encore on peut le surmonter par un travail entre entre intervenants dans les centres de rétention, où on a des motivations qui ne sont pas si différentes d'un salarié à un autre, même si nos hiérarchies respectives ont toutes des motivations différentes pour avoir répondu à cet appel d'offres.
On s'écoute un petit extrait musical, ce sont les Têtes Raides et Noirs Désirs pour Lydie Tinté, et puis on revient tout de suite après sur les droits des sans-papiers dans les centres de rétention.
Les clans des rues, les clandestins, les cris des chiens hurlent à la ronde. Je suis pas inscrit sur la map monde. Il n'y a pas de pays pour les vauriens, les poètes et les baladins. Il n'y a pas de pays si tu le
quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand il se croit français. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand il se croit français. Ces sans-papiers
qui vont bientôt repartir
vers leur pays les chiens.
On a tout pris, chez eux y a plus rien.
De rétention, cale de fond, j'en ai même oublié mon ombre. Je promène moi dans vos décombres. On m'a donné un bout de rien, j'en ai fait 100 000 chemins.
J'en ai fait 100, j'en ai fait un chemin de l'identité, l'identité, l'idée titan,
l'identité
à la ronde.
Et dans ce flot du Nigérien, j'aurais plus de nom, j'aurais plus rien. Dis-moi c'est quand,
dis-moi c'est quand
que tu reviens.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est quand il se croit français.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est quand il se croit français. Avec tous ces chantiers
et tous ces foulitiers,
ils visent pas que les lapins.
C'est plus du gros sel, c'est des
tomahawks que des missiles solaires ou des scuds. Et moi, avec mon pistolet à bouchon, je pars au front.
Paris sera beau, on chantera les oiseaux. Paris sera beau, si les oiseaux me lâchent. Paris sera beau, car les oiseaux. Allez, Paris sera beau.
Au poste, on vient d'écouter Lydie Tanté des Têtes Raides et de Noir Désir. Nous sommes aujourd'hui pour un plateau spécial sans papier. Je rappelle les invités, eh bien, il y a la CIMADE avec Chantal Germain et José Lagorce, également représentatif de Réseau Éducation Sans Frontières, Frédéric Burguin-Casi pour la coordination des comités de soutien aux sans-papiers, Neumann Mekari pour le Génépi et Sonia Laouès et Madame Saïdi Siam pour, qui est donc sans papier actuellement. On est en train de parler des centres de rétention et plus particulièrement des conditions d'incarcération. Quels sont les accès aux soins et à la formation lorsqu'on est sans papier dans un centre de rétention? José Lagorce.
Dans l'idéal et dans les textes, l'accès aux soins est permanent et à la volonté des retenus. Dès qu'ils en émettent le souhait, la journée, un médecin est censé être présent sur place, dans le cas des centres assez importants, sinon on en appelle un. Et la nuit, on fait appel aux pompiers ou SOS médecins. L'accès aux soins, c'est la présence infirmière régulière qui doit être assurée de façon permanente, normalement.
Et dans la réalité, les choses se passent différemment. Elles sont extrêmement fonction des policiers qui sont présents ce jour-là sur les escortes, sur la présence devant le micro lorsqu'un sans-papier appelle pour voir un médecin. C'est souvent, malheureusement, et c'est ce qu'on constate, le policier qui est le premier à faire un diagnostic, à dire oui ou non, j'appelle le médecin, c'est grave ou pas. T'as mal au crâne, est-ce que vraiment il faut un Doliprane maintenant ou tu peux pas patienter 2 heures? Et c'est là où le problème se pose parce que le policier en question n'est pas du tout apte à faire ce diagnostic. Alors pour peu que le médecin ne soit pas présent en permanence sur le centre de rétention, les soins peuvent être reportés, voire non effectués. Alors c'est vrai que sur le centre de rétention de Nîmes, on n'a pas ce souci depuis quelques mois maintenant, puisqu'on a obtenu un médecin à temps plein qui est présent toute la journée et qui voit systématiquement toutes les personnes qui en font la demande et qui entrent. C'est-à-dire que dès leur entrée, elles rencontrent le médecin et l'équipe infirmière, ils font le bilan de santé, des examens sont demandés, éventuellement en cas de pathologie grave, souvent découverte sur le centre de rétention. C'est-à-dire que beaucoup des personnes qui arrivent n'ont jamais eu accès aux soins auparavant. Alors certes, on disait on a le droit à l'aide médicale État. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de droits, mais pour les faire appliquer, c'est très différent. C'est-à-dire que les conditions d'application du droit sont très différentes du droit tel qu'il est écrit. C'est-à-dire que les personnes qu'on rencontre travaillent, vivent, mais hésitent à se rendre à l'hôpital, hésitent à aller voir un médecin de ville, hésitent à faire valoir leurs droits. Ce qui fait qu'elles viennent, elles arrivent en rétention avec une pathologie souvent grave. Ça va des hépatites au VIH, où la découverte de la pathologie a lieu dans une situation d'enfermement, ce qui rend d'autant plus compliqué la gestion de cette situation par les intéressés eux-mêmes. On est systématiquement en rétention dans une procédure d'urgence, c'est-à-dire que les personnes rentrent, elles n'ont que quelques heures pour effectuer leur recours, elles n'ont que quelques heures pour rencontrer le médecin, l'avocat, la CIMAD, les associations. Cette procédure d'urgence fait que la santé passe au deuxième rang par rapport à leur préoccupation qui est celle d'être libérée et d'éviter la reconduite. La découverte de la pathologie souvent débouche sur une libération, notamment sur Nîmes, où les retenus passent peu de temps finalement enfermés puisqu'ils sont beaucoup libérés pour des procédures irrégulières. Ils repartent avec une ordonnance en poche sans savoir trop ce qu'elle veut dire. Le suivi n'est pas évident puisque le premier réflexe est de disparaître pour éviter d'être repris. Donc l'accès aux soins est possible en rétention. Il est fonction des centres de rétention où on se trouve. Anciens centres, gros centres avec des médecins en permanence présents et une équipe infirmière ou recours à SOS médecin. Par exemple sur 7, le médecin n'est pas présent en permanence. On appelle, il vient 2 fois par semaine je crois. Et il y a une infirmière qui est présente, qui établit le diagnostic et appelle si nécessaire son supérieur. Donc, et ces fonctions, souvent aussi de la volonté des policiers, de oui ou non faire intervenir les médecins. On a eu le cas à Nîmes d'un étranger qui avait tellement mal aux dents, qui le disait et qui n'a pas eu de solution, que de s'arracher sa dent avec une poignée de porte.
Des conditions de santé aléatoires. Très aléatoires, qui conduisent peut-être à des situations du coup assez extrêmes. Qu'est-ce qui justifie finalement cet enfermement, à part le fait d'être étranger, puisque le seul tort c'est d'être étranger, alors qu'il n'y a aucun délit. Alors là, je m'adresse à toi, je reprends Neumann qui fait partie du Genepi.
Donc à la base, il n'y a pas vraiment de délit en fait. Enfin, il y a des espaces en fait où la police va pouvoir contrôler un peu plus, par exemple la gare, ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc en fait, cette personne va être attrapée à la gare. Par exemple, c'est ce qui a fait sauter quand même pas mal de QTF en fait, où la personne fait un. Enfin, il y a eu problème en fait lors du jugement parce que la personne n'a pas été arrêtée dans un lieu précis en fait.
Le souci des conditions d'interpellation sont sanctionnés par le juge des libertés. Le juge contrôle dans quelles conditions l'étranger a été interpellé. Alors souvent la problématique de la gare, c'est qu'une gare comme Nîmes, qui est une gare internationale ou Montpellier, peut justifier des contrôles sans aucune raison valable de la part des policiers. Tout le monde peut y être contrôlé et donc interpellé.
Après, qu'est-ce qui justifie justement cet enfermement après une interpellation, alors qu'il n'y a aucun délit, que le seul tort de ces personnes, c'est d'être étranger? C'est ça qui me pose question, moi.
C'est que souvent, on y accole un délit, en fait. C'est que cette personne-là va être arrêtée parce qu'elle est étrangère à un premier niveau, et à un second niveau, c'est par exemple qu'elle va avoir résisté à un contrôle de police. C'est qu'elle va s'être rébellée, donc elle va être arrêtée pour rébellion. Et donc cette personne-là va être arrêtée, va être envoyée dans un centre de rétention. Centre de rétention, on n'y reste pas indéfiniment, on y reste 32 jours. donc, 32 jours renouvelables. Enfin, j'ai le cas d'un Palestinien qui a passé sur 8 mois, il a passé 7 mois fermé, donc 5 passages en centre de rétention et 2 passages en maison d'arrêt. Et donc en fait, ces personnes-là font des allers-retours en fait, entre la prison et les centres de rétention, sans réel en fait, délit à la base. Mmh. Mais en fait, le problème, c'est que le gouvernement aujourd'hui arrive à maquiller un peu tous ces lieux d'enfermement en créant une sorte de parapénitentiaire, c'est-à-dire qu'on va avoir les prisons pour les détenus de droit commun, les centres de rétention pour les étrangers, les EPM pour les mineurs. Et grâce à ce déguisement en fait, des différents lieux d'enfermement, on en arrive en fait, à rendre un peu plus acceptable en fait, au niveau de la population ces lieux d'enfermement, alors qu'en fait, pour tous ces lieux-là, l'enfermement est le même, les conditions d'incarcération sont les mêmes, enfin, vous parliez des conditions de santé sont les mêmes en prison. Et donc, enfin, je veux dire, c'est juste des logiques en fait, de maquillage du gouvernement.
Qu'est-ce que ça pose comme question au niveau de la morale et de l'éthique pour le gouvernement français, selon vous ? Chantal Germain.
Par rapport à ce qui vient d'être dit, je dois signaler l'existence d'un délégué, enfin je ne me souviens plus quel est son titre exact, d'une personne qui est chargée de, il s'agit de M. Delarue, il est chargé de savoir ce qui se passe dans les prisons et il a fait des rapports extrêmement sévères.
C'est le contrôleur des privations de liberté.
Merci beaucoup. Le contrôleur de la privation de liberté, des lieux de privation de liberté, et il a fait un rapport qui est absolument... plus que sévère, je ne trouve pas le terme adéquat, en ce qui concerne les prisons françaises qui sont dans un état absolument épouvantable et indigne d'une démocratie. Ce que je veux dire, c'est que cette personne, son titre va être supprimé. Il va y avoir la suppression de la défenseure des enfants, qui elle aussi intervenait très souvent quand des enfants étaient mis en centre de rétention ou étaient maltraités, du contrôleur de l'état des prisons, de la Commission nationale de déontologie de la sûreté, c'est-à-dire celle qui vérifiait que les procédures policières s'étaient faites conformément à une déontologie. Et on parle aussi de supprimer, mais ça n'est pas acté, la HALD, c'est-à-dire la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'équité. Donc tout ceci serait noyé dans un ensemble qu'on appellerait le défenseur des droits. Mais ça signifie que ce défenseur des droits, eh bien, il n'aurait pas le même pouvoir de résonance auprès de la population que toutes ces différentes personnes qui, chacune dans leur domaine, veillaient quand même à un respect de la déontologie dans les lieux dont elles étaient chargées ou pour les catégories de personnes dont elles étaient chargées.
Il y a d'ailleurs en ce moment des mouvements qui s'organisent aujourd'hui même au tribunal de Montpellier concernant justement ces nouvelles mesures sur le domaine de la justice en France. Une violence politique qui est très forte en France, notamment avec le poids des mots. Hein. On se rappelle les mots d'Éric Besson qui qualifiait de nouvelle jungle les immigrants qui s'étaient réfugiés dans un hangar à Calais. Il y a une violence également morale hein, que chaque sans-papier peut vivre tous les jours, la peur au ventre, la peur de se faire enfermer, d'emmener ses enfants à l'école, de se faire soigner, etc. Et puis également une violence physique, hein, lorsqu'on voit la violence policière qui peut souvent se dérouler lors d'altercations avec les sans-papiers. Quel est votre avis, votre regard sur cette violence-là qui commence de plus en plus à être légitimée par le gouvernement français ? Chacun de vous, hein, autant associations que familles, etc. Bonjour.
Si vous le permettez, j'aimerais simplement vous apporter une petite précision concernant donc, les conditions d'interpellation. Il faut savoir aujourd'hui que la liberté d'expression et de circulation sont des droits fondamentaux dans notre démocratie française. La police, que ce soit la police aux frontières ou la police nationale, n'a pas le droit d'effectuer des contrôles inopportuns dans la rue, tout simplement. Alors, la procédure est la suivante, puisque j'en ai moi-même été victime en gare de Montpellier, dans certaines rues à Montpellier.
Parce que tu es sans papier.
Pas du tout. Il est marqué sur mon front, donc je suis d'origine maghrébine, donc forcément, les probabilités font que je serai contrôlé plus aisément par les policiers. D'ailleurs, on ne peut pas leur reprocher grand-chose, puisqu'ils ne font qu'exécuter des ordres qu'ils reçoivent de très haut. Donc pour revenir sur les conditions d'interpellation, aujourd'hui dans notre pays, le procureur de la République donne ordre, puisque c'est sur ordre du procureur de la République, que les contrôles sont effectués sur un secteur donné. pour revenir sur donc, cette liberté fondamentale de circuler. Donc aujourd'hui, moi, en tant que citoyen français, n'ayant pas la carte d'identité française, hein, puisque je ne suis pas naturalisé, mais je me considère comme un citoyen à part entière, je trouve qu'il est anormal de stigmatiser une population et que ma liberté aujourd'hui ne peut pas s'exprimer puisque je ne peux pas circuler librement. Donc, moi j'ai été à plusieurs reprises contrôlé depuis 2002, à 5 reprises très exactement, où parce que je connais la loi, je peux me défendre, mais je pense à tous ces gens qui, pour diverses raisons, n'ont pas cette possibilité-là. Donc j'ai pu m'en sortir sans être interpellé, parfois même n'ayant pas présenté mes papiers d'identité puisque je n'avais strictement rien à me reprocher. Et je rappelle donc les policiers à leur mission première qui est de protéger tous les citoyens, d'ailleurs sans papier ou pas. Donc aujourd'hui, on vit vraiment en tant qu'immigré dans notre pays dans un climat de peur qui ne peut plus durer. Et dans une sorte de banalisation du racisme en règle générale, contre lequel je pense qu'il est aujourd'hui plus que nécessaire de lutter.
Tu parlais de stigmatisation. C'est vrai que depuis Pétain, on avait rarement catégorisé des classes sociales comme ça, des classes de gens. Et les sans-papiers deviennent finalement des objectifs chiffrés et sont très stigmatisés et catégorisés. Voilà, c'est ce que je remarque actuellement.
Voilà. Disons, ce qui est étonnant, c'est de constater que la politique du chiffre accentue le nombre des conditions d'interpellation assez étranges. Le juge des libertés a souvent à devoir juger si fumer une cigarette de forme conique est un délit qui justifie un contrôle d'identité, si le crachat sur la voie publique est un délit qui justifie un contrôle d'identité, traverser hors des clous est-il un délit qui justifie un contrôle d'identité, si accélérer le pas à la vue des policiers peut permettre un contrôle d'identité, est-ce que courir dans la rue est déjà une suspicion de délit? Est-ce que être à proximité d'un lieu où a été commis un délit dans un temps non précisé est un délit? Voilà, et ça, le juge des libertés, dans toutes les régions de France, est amené à se prononcer. Et si on regarde quelles sont ses réponses, il va avoir des réponses très différentes en fonction du lieu où il se trouve et de la justice qu'il a envie de rendre. Alors, les trois quarts du temps, la Cour de cassation répond non, ce ne sont pas des délits. Mais pour arriver à la Cour de cassation, on a déjà dépassé largement le délai de la rétention et souvent la personne est au pays alors qu'on lui donne raison par la suite.
On écoute Rodolphe Burger et le collectif Liberté de Circulation, Les Petits Papiers.
Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, testez un soir papier buvard, vous consolez.
Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir ils puissent papier maïs vous réchauffer.
Un peu d'amour papier velours et d'esthétique papier musique, c'est du chagrin papier dessin avant longtemps.
Laissez glisser papier glacé, les sentiments papier collant, ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent.
Machine papier machine.
Vous passe l'oreille papier doré.
Celui qui touche papier tu mouches.
Et moitié fou.
C'est pas brillant papier d'argent.
C'est pas donné papier monnaie.
Où l'on en meurt papier à fleurs.
On s'en fout.
Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir ils puissent papier maïs.
Papier velours
et l'esthétique
papier musique,
c'est du chagrin
papier dessin avant longtemps.
Laissez glisser papier glacé, les sentiments papier collant, ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent.
Machin, machine, papier, machine. Oh. passes le papier doré. Celui qui touche papier tu mouches et moitié fou. C'est pas vrai, au paquet d'argent, c'est pas le des papiers monnaies, où l'on en veut papier, où l'on s'en fout.
On écoutait Rodolphe Burger, le collectif Liberté de Circulation, les petits papiers. On parle des sans-papiers aujourd'hui dans notre Tous au poste. On va finir, hein, puisque finalement l'émission touche à sa fin. Il est 12h55, bientôt 13h. Alors on va faire un petit tour de table pour rappeler l'actualité de chaque intervenant qui était là aujourd'hui. On parlait là juste avant des centres de rétention, la violence aussi qui sévit, autant la violence politique, physique que la violence morale vécue tous les jours par les sans-papiers. Et puis de finalement, eh bien, cette violence-là qui est très représentative d'une dérive politique actuelle. On en reparlera dans ce Tous au poste le mois prochain, puisqu'on va faire un rendez-vous chaque mois autour de cette problématique des sans-papiers. Il y a moult choses à dire, l'actualité en parle tous les jours, et puis il se passe tous les jours quelque chose à ce niveau-là, avec des avancées au niveau des lois. Je laisse la parole maintenant à chaque protagoniste ici aujourd'hui pour nous rappeler justement l'actualité, votre actualité chaque Sonia Laouès.
Oui, alors nous, donc, dans ce combat pour la famille Saïdi, nous organisons ce soir un concert de soutien au Sound Station. C'est un bar musical au 1 rue du Pont de Latte. On espère avoir beaucoup de monde et montrer donc que nous voulons que cette famille reste avec nous dans notre quartier et qu'il continue à vivre là, à travailler comme ils ont l'habitude de faire, à apporter leur force de travail et leur bonne volonté, leur dynamisme et leur engagement dans tous les domaines. Voilà.
À quelle heure on peut se retrouver au Sound Station ?
Alors, ça sera à 20h ce soir.
20h, et c'est gratuit, bien sûr.
Oui, c'est entrée libre, voilà.
Je laisse la parole à toi, Frédéric.
Et oui, donc nous, on se mobilise avec tous les sans-papiers, et donc en particulier les 80 sans-papiers qui ont décidé de s'engager avec nous cette fois-ci pour déposer un dossier à la préfecture, dépôt qui est refusé pour l'instant. Donc on organise régulièrement des regroupements. On en a un le 13 mars à Figueroles, donc sur la place Salingro, à 11h, donc Figueroles le 13 mars. Et puis le 20 mars, une grosse manifestation, parce que l'idée c'est d'être très très nombreux pour aller jusqu'à la préfecture. Avec un départ de Plan-Cabane, hein, de Figueroles, un départ à 15h30 le 20 mars. Plus on est nombreux, plus la préfecture sentira qu'on est tous ensemble contre la politique d'enfermement et de déni de régularisation des sans-papiers.
Merci Frédéric pour la coordination des comités de soutien aux sans-papiers. Chantal.
Alors, pour le RESF, je voudrais signaler qu'il y a une rencontre des RESF du Sud prochainement, le 27 mars. Donc, une journée de travail en commun, mais qui sera clôturée le soir par un concert de Moresca, salle Pelloutier, à partir de 21h. Ce que je voudrais signaler aussi, c'est qu'il y a actuellement, dans toutes les salles de cinéma, la projection d'un petit film de 3 minutes réalisé par les plus grands cinéastes, je vais en citer un seul, Jacques Audiard, le réalisateur du Prophète, concernant les travailleurs sans papier. Des cinéastes avaient déjà réalisé, il y a 4 ans de ça, un petit film sur les enfants qui voulaient rester ici. C'était, je ne me souviens plus le titre exact, Laissez-les vivre ici. Voilà. Et là, c'est les travailleurs sans papier. Voilà donc deux choses très importantes et très intéressantes.
Je rappelle que Moresca Fracadub, le concert du 27 ouais. mars de 21h de la chanson locale. Oui. Et puis également un petit avant-goût du film que l'on peut visionner sur votre site de la CIMAD.
Voilà, on peut, oui.
Rendez-vous donc régulier qui va se perpétuer tous les mois tous au poste, ce rendez-vous autour de la problématique des sans-papiers en France. Il y a beaucoup de choses à dire, on se donne rendez-vous donc en avril avec vous tous, hein, si vous êtes encore là pour nous en parler, si vous avez toujours envie de venir, bien sûr. Et puis je vous remercie de votre présence ici et de nous avoir dit tous ces mots sur ce problème-là qui prend de plus en plus d'ampleur en France. Merci à vous tous.
Et merci.
Merci. Merci à vous.
À bientôt.
c'est la fin de cette édition de Tous au poste d'ici une vingtaine de minutes pour peu que vous nous écoutiez en direct entre midi et 13h. Vous allez retrouver Dominique Osnac pour sa chronique littéraire hebdomadaire. Ce sera suivi de la diffusion du Bar des Sciences à 13h30 et puis un peu plus tard dans la journée. Après la rediffusion de Tous au poste, c'est David Beau que l'on retrouve à 18h pour l'hebdo du Sherpa. Ce sera suivi d'un troisième volet des Mardis Backroom en compagnie de Marvin, excellent groupe montpelliérain qui sera le 26 mars sur la scène du Rockstore. Une émission proposée comme chaque semaine par Vincent Cavaroc et François Barrez. Les rendez-vous de l'international cacationniste prendront le relais dès 20h pour 2h de musique dans tous les sens. Et puis pour finir, ce sera peut-être Mille Turbos.